Vous avez parlé donc aux États-Unis de la nécessité d'avoir une formation avec des points pour pouvoir utiliser le robot. Est-ce qu'en France, les chirurgiens, il y a besoin d'un permis d'utiliser le robot, une formation, alors, quelque chose d'obligatoire?
Alors, c'est une très bonne question. En fait, le système français, là encore, je vais essayer de rester avec la même humilité que Bernard. J'allais dire qu'on est pas mal situé en chirurgie en France. Simplement parce que le système français, c'est ce qu'on appelle le compagnonnage. Et le système de compagnonnage fait que, par inhibition, les internes sont formés par les chefs, sont formés par les seniors, etc. Et donc, il y a une transmission du savoir chirurgical qui se fait vraiment au bloc opératoire. Et donc, ce système-là, et qui est un système qui du reste, est très menacé actuellement par les pouvoirs publics qui veulent réduire la durée de l'internat. Ça, c'est pas le seul domaine dans lequel les pouvoirs publics menacent des choses. Le fait est qu'aujourd'hui, ce système est menacé. Au début, c'est très différent. Il n'y a pas du tout ce système-là. Donc, ils sont vraiment obligés d'adapter leur système à leur pratique, si vous voulez. Je dirais qu'aujourd'hui, nous, véritablement, les chefs de clinique qui sortent du service, que ce soit en cœlioscopie, en chirurgie open et maintenant en chirurgie robotique, ils ont vraiment la compétence. Il faut quand même imaginer que c'est un système qui a deux avantages, c'est qu'effectivement, on peut tout à fait imaginer qu'en France, on aura les mêmes barèmes à l'avenir. Encore faudrait-il que le robotique soit partout exploité. Alors, comme aujourd'hui, vous l'avez vu, dans la 75, ça coûte extrêmement cher. On peut imaginer que tous les chirurgiens ne seront pas formés à la chirurgie robotique. Donc, on pourrait imaginer que lorsque ce sera le cas. Et le deuxième intérêt, c'est peut-être médico-légal, parce qu'aujourd'hui, vous avez de patients souhaitent avoir le film de leur intervention chirurgicale. Aux États-Unis, par exemple, c'est un centre où lorsque le patient sort, on lui donne la clé USB de son intervention, où comme ça, le patient a vu tout ce qui s'est passé et autres, etc. Donc en France, on n'est pas là, on n'a pas encore de juridisation de la vaccine. Mais ça tend à venir probablement, et donc on peut imaginer qu'à l'avenir, les patients nous montrent, en fait, est-ce que vous pouvez nous montrer machin, un truc, et là, qu'est-ce que vous avez fait, et là, c'est pas vous, c'est un autre, machin. Donc voilà, c'est pas encore le cas, mais pourquoi pas. En tout cas, c'est vraiment génial, c'est vraiment. Là encore, c'est un des gros avantages de la robotique.
Une question, professeur, plus technique. Je suis très bien compris. La différence entre la CELIO et la robotique, hormis le fait que le chirurgien est plus confortable pour travailler, les outils de la CELIO qui rentrent dans le corps humain sont les mêmes en robotique,
pas du tout les mêmes. En chirurgie robotique, c'est une pince avec juste au bout le chirurgien manie la pince avec que 3 degrés de liberté, alors qu'en chirurgie robotique, c'est le robot qui tient l'instrument, et l'instrument à l'intérieur est un instrument qui a toutes les degrés de liberté. Le chirurgien qui est à côté, mais qui pourrait être à 200 000 km, puisqu'on pourrait imaginer ce qui a été fait de reste, puisqu'il y avait un malade qui a été opéré à San Francisco, alors que le chirurgien était à Strasbourg, c'était pour voir s'il y avait une transmission en très haute définition, mais en très rapide, évidemment, pas que là quand il passe seul, il n'y a pas l'heure, mais. Donc on imaginerait, et donc au départ c'était pour ça ces robots-là, c'était pour la chirurgie de guerre. Le but c'était que les chirurgiens de la SPUC soient les robots qui opéraient les patients. Alors, ça a été dévoyé à l'utilisation civile, mais au départ c'est ça. Et donc en fait on plug le robot dessus et on glisse un instrument qui lui à 10 degrés de...
Enfin, à 9 degrés déjà. Mais les instruments que l'on glisse dans le corps humain, c'est les mêmes que le chirurgien tenait en cellule.
Non, c'est pas les mêmes encore une fois, parce que justement l'instrument est plugé sur le bras du robot et le chirurgien, lui, il manie des joysticks qui permet d'avoir des rotations en tous les sens. Alors qu'en sténoscopie, le chirurgien tient l'instrument, donc il ouvre les ciseaux, alors que et n'a que peu de degrés de liberté.
Merci.
Bonjour.
Bonjour,
monsieur.
Est-ce que l'on peut, avec la robotique, griller des métastases pour éviter leur progression?
Alors, ça c'est... C'est tout le problème de l'intérêt de la chirurgie dans les métastases des cancers du rein. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'en situation, j'allais dire monométastatique, ou en situation où il y a peut-être une ou deux métastases sur le même site, il y a un intérêt à faire de la chirurgie. Aujourd'hui, il a été clairement démontré qu'en situation plurimétastatique, la chirurgie n'a plus d'intérêt. Avec l'abord, et avec l'apport de ces nouvelles molécules dont nous a parlé Bernard Escudier, on a un certain nombre de patients pour lesquels il y a une diminution de métastases au point qu'il n'y en a plus qu'une ou deux qui sont évidentes, et on est amené effectivement à opérer secondairement ces patients. change. Exemple, avec Bernard ou avec Stéphane Dard, deux patients, on a opéré d'un cancer du rein, ils avaient une métastase sur le poumon, une métastase sur la surrénale contralatérale. Grâce au traitement, les métastases pulmonaires ont complètement disparu, il ne restait plus qu'une seule métastase surrénalière. On a opéré secondairement le patient de cette métastase surrénalière, et là on peut faire en robot ou en chirurgie cœloscopique ou traditionnelle. Mais vous voyez, ce que je veux dire, c'est que votre question fait plus appel à l'intérêt de la chirurgie en situation métastatique, qui reste aujourd'hui un petit peu à définir en fonction vraiment de chaque cas.
D'accord, merci.
Oui, oui. Bonjour, docteur.
Bonjour,
je vais poser une question. Donc, j'ai une néphrectomie totale de rein droit, et donc métastatique, poumon et une tumeur sur le rein gauche. Je veux savoir à quel moment on peut prendre la décision pour éviter d'être dialysé, de retirer ou de ne pas retirer la tumeur sur le rein qui reste. Voilà.
Alors, effectivement, ça va dépendre de la taille, ça va dépendre de la localisation, ça va dépendre de la réponse que vous avez eue au poumon. C'est vrai que si votre équipe vous a proposé de vous retirer la tumeur ou le rein, c'est probablement qu'il y a eu une bonne réponse sur les métastases pulmonaires et qu'ils veulent éviter que la tumeur du rein ne progresse. En situation unilatérale, c'est-à-dire que quand vous avez une tumeur sur un seul rein, la chirurgie robotique doit être faite avec beaucoup de prudence, parce que le temps d'ischémie, le temps où on va interrompre la circulation pour retirer la tumeur, peut être un petit peu plus long en chirurgie robotique qu'en chirurgie ouverte. Et donc ça fait partie de cette indication là aussi où il y a peut-être une limite de la chirurgie robotique. Et maintenant, c'est vrai qu'il y a certains patients, malheureusement, on est obligé de leur retirer le rein aussi, parce qu'il n'y a pas le choix, on est obligé effectivement de les mettre en dialyse. Donc on doit après vraiment voir le bénéfice et le risque entre l'intérêt de leur retirer le rein pour éviter que la tumeur ne progresse, mais l'inconvénient de les mettre en dialyse. Et chaque situation étant différente, ça doit être vraiment discuté avec beaucoup d'attention entre les oncologues, les néphrologues et les chirurgiens. C'est un problème qui est pas simple.
Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Oui,
monsieur.
Oui, bonjour monsieur, vous me présentez Valérie Code. Moi, je veux savoir quelle est votre position par rapport à la radiochirurgie sur les neurones. Vous avez d'autres avantages, et beaucoup d'autres avantages. Effectivement, ça fait un petit peu très cher, mais on a quand même l'avantage d'éviter des complications, car on sait que toutes les méthodes invasives, enfin, parce qu'on appelle les maladies médicamentales, parce que vous ne
La question est l'intérêt de la ce qu'on appelle la radiostéréotaxie, qui sont des techniques d'irradiation, donc de radiothérapie extrêmement focalisées. Actuellement dans le cancer du rein, le seul intérêt de la radiostéréotaxie, c'est souvent sur les métastases cérébrales. C'est là où ça a été très, très important. Comme l'a dit Bernard Escudier, actuellement, les traitements anti-angiogéniques passent très mal la barrière hémato-encéphalique, et donc on n'arrive pas bien à traiter ces métastases autrement que par stéréotaxie. Le cancer du rein est supposé être radio-insensible, c'est-à-dire est supposé ne pas être sensible à l'irradiation, comme il n'était pas sensible à la chimiothérapie. C'est la raison pour laquelle ces techniques n'ont pas été promues. Le deuxième inconvénient, c'est que la dose d'irradiation sur la tumeur, si on voulait éventuellement l'utiliser, était telle qu'elle risquait d'abîmer fortement et le rein, entraînant du coup un effet paradoxal, puisque le rein serait lui-même complètement atone, alors qu'on est supposé griller une seule tumeur, on transforme le rein en champ d'irradiation et le rein n'est plus fonctionnel, et que les organes de voisinage, là aussi, pour atteindre cette irradiation était abîmée. Maintenant, cela dit, vous avez raison, incontestablement, le développement, ce qu'on appelle du cyberlife, cyberlife, c'est quoi? C'est en fait une irradiation extrêmement forte sur un point très précis. Et il faut vous imaginer, vous avez une tumeur, et le CyberLife, c'est exactement pareil, je ne sais pas si vous voyez, je ne vais pas faire de pub, mais la pub pour le Picasso, là, le Citroën Picasso, c'est ça, ou Renault Picasso, je peux vous dire, où on voit un bras qui tourne dans tous les sens et qui fait Picasso, le CyberLife, c'est ça. Vous avez une tumeur, donc vous avez une salle très grande, et le bras de l'irradiation tourne dans tous les sens, de manière à les cibler de façon extrêmement précise un point. Et du coup, comme le CyberLife passe dans plein d'endroits différents, il ne brûle absolument pas ou très peu les organes de voisinage. Il va cibler sur une zone très précise avec un degré d'irradiation très fort. Donc, on peut imaginer, effectivement, et nous, on va l'avoir ici, par chance, le CyberKnife, dans sa vie de radiothérapie, on peut imaginer à l'avenir, pourquoi pas, tester sur des métastases ou des tumeurs, mais probablement plus des métastases, l'intérêt du CyberKnife sur ces sites métastatiques quand elles ne sont pas trop grandes et pour pouvoir avoir ça. Mais incontestablement, avec ces possibilités d'irradier très fortement en diminuant les effets collatéraux, probablement que la radiothérapie pourrait avoir un intérêt à l'avenir. Mais ça reste aujourd'hui encore très... voilà, ce qu'il ne faut pas retenir, je crois, c'est qu'aujourd'hui, la chirurgie, même si elle a des inconvénients, reste le traitement de référence du cancer du rein, et je pense encore pour longtemps.
Il y a d'autres questions,
une question, je veux savoir comment se situent les différentes méthodes de chirurgie exposées par rapport aux problèmes posés par les patients sous anticoagulants.
Alors, c'est une très bonne question. On a élargi nos indications chirurgicales, notamment chez les patients sous anticoagulants sous aspirine. Aujourd'hui, pratiquement tous les chirurgiens font de la chirurgie chez les patients sous aspirine. Pour les patients qui sont sous antivitamine K, qui est une autre gamme d'anticoagulants, on peut être amené à opérer aussi en transformant et en substituant l'antivitamine K par des éparines. Parfois, ça peut poser des problèmes parce qu'on est obligé de maintenir des doses d'éparines relativement hautes, qui fait que c'est effectivement une chirurgie qui saigne. En revanche, les nouveaux anticoagulants posent des problèmes considérables pour les chirurgiens et notamment interdisent un certain nombre de pratiques chirurgicales, notamment quand elles sont associées à l'aspirine. Et dans sa liste, en tout cas, c'est totalement impossible de faire un patient qui est sous aspirine et sous ces nouveaux anticoagulants, parce qu'il y a des risques de saignement qui sont très importants. Et donc, parfois, on est amené, effectivement, à rectifier une indication chirurgicale partielle du rein, où on coupe le parenchyme rénal avec des risques de saignement, et on le transforme en chirurgie élargie, où le risque de saignement est bien moindre, justement à cause de ces problèmes-là. Et notamment, on a eu récemment le cas d'un patient qui avait plutôt une tumeur pas très grosse, et bien même dans mon service, on s'est résolu à faire pour ce patient une néphrectomie élargie, parce que sinon c'était vraiment un risque hémorragique considérable. Heureusement, il y a une fonction rénale normale, et bon, voilà. Et ça peut nous arriver de rectifier votre question très pertinente.
Oui, monsieur.
Vous parlez de tumeur grosse ou pas grosse. À quel moment
vous
considérez que
la
tumeur est grosse?
Ah, quelle bonne question. En fait, c'est pas que la taille qui compte aujourd'hui. Vous avez compris, c'est l'aspect, c'est les rapports radiologiques et les radiologues sont extrêmement importants pour nous. On a un staff toutes les semaines où toutes les tumeurs du rein sont discutées avec les radiologues, où ils reprennent absolument toutes les indications et où on ne tient même pas compte de ce qui a été dit. On revoit tous les scanners sur CD-ROM et on réétudie tout, les contraintes, les limites, les rapports. Voilà. En d'autres termes, ben, je vais être caricatural, vous pouvez très bien avoir une tumeur de 7, 8, 9, 10, 15 cm qui est très périphérique, avec un aspect autour de la tumeur extrêmement bien dessiné, où il n'y a pas cette espèce de spéculation, d'infiltration, et où une tumeur ne rentre pas trop dans le rein, et on peut envisager de faire une chirurgie partielle, pourquoi pas. Et à l'inverse, vous pouvez avoir une tumeur de 4 cm située complètement à l'intérieur du rein, dans le pellicule, avec un aspect très spiculé, avec un aspect d'infiltration de la graisse péritumorale, même si on n'est jamais sûr que c'est envahi, mais où en tous les cas les rapports semblent très difficiles, et où là on va plutôt préférer faire une chirurgie élargie pour éviter de laisser de la tumeur. Donc chaque cas est particulier, et c'est l'avantage des staffs, ce qu'on appelle des RCP, des réunions de consultation pluridisciplinaire. En tout cas, dans le service obligatoire, tous les patients qui sont opérés dans le service passe en RCP avec rediscussion pour les tumeurs du rein avec les oncologues et avec les radiologues où on revoit toutes les imageries pour être sûr qu'on propose de bons gestes aux bons patients. Et certains, je me rappelle du cas d'un patient qui avait une tumeur qui n'était pas très grosse et les radiologues nous disent là il y a peut-être une infiltration, un envahissement d'une veine d'une veine du heel. Et donc on a fait une chirurgie élargie plutôt qu'une partielle. Et le radiologue avait raison, il y avait un envahissement de la veine. Donc vraiment, aujourd'hui, si vous voulez, voilà, il faut travailler en équipe et utiliser les outils, notamment informatiques, qui nous permettent de redéfinir les séquences d'imagerie et donc de préciser notre geste. Et c'est à l'occasion de ces réunions que l'on dit, là on fait une partielle, une totale, une cévio, une robot, une open, etc. On définit pour chaque patient les choses. Puis voilà, et aujourd'hui c'est plus j'ai une tumeur, je fais une néphrectomie élargie. Ça n'existe plus, c'est plus comme ça qu'on doit faire.
Merci professeur Méjean, et puis bravo pour cette transition avec